Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, content d'être avec vous pour redécouvrir la Bible à partir de ces récits qu'on dit insolites. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas regarder les récits qui sont un peu moins habituels? Ils sont porteurs aussi de sagesse, puis ils sont en plus très intéressants. Aujourd'hui, je risque de vous surprendre, peut-être même de vous choquer un petit peu, j'espère pas trop, mais quand même, avec une question qu'on n'entend pas très très souvent, mais qui est quand même, on l'entend de temps en temps dans l'Église. On va parler de la famille de Jésus. Vous savez, la famille de Jésus, on n'en parle pas tous de la même façon dans les Évangiles. On connaît beaucoup Matthieu et Luc, on en a parlé la dernière fois, des récits de naissance de Jésus. Mais à part ça, elle n'est pas toujours présentée de façon positive. En particulier dans l'Évangile de Marc qu'on va aborder aujourd'hui. La famille de Jésus va s'opposer à son ministère de façon assez ferme. On va voir ça tout à l'heure. Mais si vous écoutez jusqu'à la fin, vous allez voir que peut-être que la famille de Jésus va changer son opinion. Mais ça, c'est dans d'autres évangiles. On va s'en reparler. Puis en passant, vous savez, la famille de Jésus, il y a des frères et sœurs là-dedans. Qu'en est-il? On va regarder ça plus attentivement aujourd'hui. J'aime bien commencer avec une des questions ou commentaires que vous nous avez envoyés. Pourtant, cette semaine, on va prendre le temps de lire une critique, parce que vous savez, l'émission que je vous livre, elle est soutenue par les réflexions qui sont abordées dans un livre que j'ai écrit récemment qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible ». Et récemment, il y a un magazine web chrétien qui s'appelle « Sentier de foi » qui en a fait une présentation. Alors, je vous lis leur texte. Pour les Juifs et les chrétiens, la Bible est un livre sacré inspiré par Dieu. Pourtant, elle renferme bon nombre de textes surprenants et même bizarres ou inusités. On y découvre des histoires de polygamie, d'inceste et de jalousie, tout autant que des récits de géants, des descriptions de miracles et des prodiges ou des textes au parfum d'érotisme. Comment comprendre le sens de ces récits et leur insertion dans le texte biblique? Passionné par la Bible, Sébastien Daune commente plus d'une trentaine de textes insolites. Favorisant une lecture ludique et accessible de la Bible, il initie avec simplicité à une lecture intelligente des récits anciens et permet de découvrir toute l'actualité de leurs messages. Un livre amusant à lire, instructif, qui nous amène à découvrir avec émerveillement, par ses récits les plus inusités, les richesses et subtilités de ce trésor littéraire qu'est la Bible. Une lecture passionnante, autant pour ceux qui connaissent déjà les récits que pour les néophytes. On y fait des découvertes fascinantes. Les textes sont courts, bien écrits, et on peut y flâner avec plaisir en lisant, à notre gré, les chapitres qui nous intriguent le plus. À lire. Bien, merci beaucoup à Gérard Laverdure et toute l'équipe de Sentier de foi pour cette présentation. Je vous rappelle que le livre en question, c'est « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » de Sébastien Daune. C'est disponible chez Novalis et Mediapol. Alors, la prochaine fois, on va revenir à vos questions, vos commentaires, vos découvertes. Et la façon la plus facile de nous rejoindre reste le courriel, c'est auditoire@radiovm.com. Dans quelques instants, on en apprend plus sur la famille de Jésus. on véhicule souvent une image parfaite de la famille de Jésus. Elle est même appelée parfois la Sainte Famille. Tous les tableaux des grands maîtres en peinture ont cherché à rendre la tendresse qui devait régner entre Marie, Joseph, Jésus. Puis les deux récits de la naissance de Jésus, qu'on a travaillé la dernière fois, illustrent bien l'union dans cette famille, malgré les difficultés. On a vu, entre autres, dans l'Évangile de Matthieu qu'il y en avait beaucoup à la naissance. Pourtant, d'autres passages des Évangiles nous présentent une image très différente de cette famille. On va travailler, entre autres, deux extraits aujourd'hui de l'Évangile de Marc. Et le premier, bon, ça y se situe au cœur d'une série de guérisons. Jésus est en train de faire son travail et il guérit toutes sortes de personnes. Et c'est la première fois que l'évangéliste va nous parler de la famille de Jésus. On écoute ça, c'est Marc chapitre 3, les versets 20 à 35.
Jésus vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble, à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la tête ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Béelzéboul en lui, et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons ». Il les fit venir, et il leur disait en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut se maintenir ». Si une famille est divisée contre elle-même, cette famille ne pourra pas tenir. Et si Satan s'est dressé contre lui-même, et s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens. S'il n'a d'abord ligoté l'homme fort, alors il pillera sa maison. En vérité, je vous déclare que tout sera pardonné au Fils des hommes, les péchés et les blasphèmes aussi nombreux qu'ils en auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il reste sans pardon à jamais. Il est coupable de péché pour toujours. Cela parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit « « Voici que ta mère et tes frères sont dehors. Ils te cherchent. » Il leur répond, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. »
Dans cet extrait, la famille n'est pas tendre à l'égard de Jésus. Elle lui dit même qu'il a perdu la tête. Elle veut le ramener à la maison pour qu'il cesse de parler et d'agir comme il fait. Si on regarde un petit peu plus attentivement, avez-vous remarqué le verbe qui traduit l'action de la famille de Jésus au début du récit? Elle veut s'emparer de Jésus. En grec, c'est « kratesai ». « Kratesai », on peut traduire ça par « saisir »,« mettre la main sur » ou « arrêter ». C'est le même mot qui va être utilisé plus tard lors de l'arrestation de Jésus au chapitre 14 de l'Évangile de Marc. C'est pas un détail anodin. Ça indique que la famille de Jésus, à ce moment-là, joue dans le récit le même rôle que les autorités romaines et juives plus tard. Elle agit comme ceux qui vont arrêter, condamner et ultimement crucifier Jésus. On est bien loin de la Sainte Famille, là. La réponse de Jésus à l'interprétation de sa famille manifeste que non seulement il prend ses distances par rapport à sa famille, mais qu'il s'en constitue une autre. Et le critère pour appartenir à cette nouvelle famille, c'est de faire la volonté de Dieu. Une nouvelle fraternité est en train de se construire autour de lui, basée non plus sur des liens de sang, mais sur l'écoute de sa parole et le désir de faire la volonté de Dieu. Entre les deux textes qui font référence au problème de Jésus avec sa paternité, dans l'Évangile de Marc, on retrouve une controverse avec les scribes de Jérusalem et Jésus. Ils vont accuser Jésus d'avoir un esprit impur et de chasser les démons au nom de Satan. Par ce choix de trame narrative, de mettre les scribes entre les deux chicanes de famille, l'évangéliste établit un rapprochement entre l'attitude de la famille de Jésus, qui croit qu'il a perdu l'esprit, et celle des scribes, qui lui reprochent aussi d'avoir un esprit impur. Cette insertion d'une polémique avec les scribes, au cœur du récit de la famille de Jésus, ça nous questionne. La famille de Jésus est-elle aussi, on pourrait même dire, perverse que les autorités religieuses de Jérusalem qui vont ultimement le mettre à mort? Le texte distingue deux groupes, la famille puis les scribes, mais en même temps, en les plaçant côte à côte, on souligne que les deux veulent arrêter sa mission. D'ailleurs, il y a une chose étrange, c'est que beaucoup de copistes et d'exégètes au cours de l'histoire ont été très embarrassés par le verset 21 où la famille dit que Jésus a perdu la tête. Et bon, les copistes, c'est quoi ça? C'est qu'avant l'invention de l'imprimerie au 15e siècle, il fallait toujours recopier les textes de la Bible à la main. C'était très long, c'était surtout des moines qui faisaient ça. Et parfois, ces copistes-là prenaient la liberté d'inscrire quelques commentaires en bas de page ou des fois même changeaient quelquefois un peu le texte parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de sens. Et on retrouve ça pour le verset 21. Puis on peut les comprendre, on comprend leur réaction. Est-ce que c'était convenable de rapporter que la famille de Jésus disait qu'il avait perdu la tête? Certains des copistes ont retiré ce passage du texte et l'ont réécrit de façon un peu moins compromettante pour la famille. Aussi, certains exégètes ont choisi d'interpréter très librement le sens du mot « famille ». Pour eux, ils désignaient plutôt un groupe neutre, comme ceux qu'ils suivent. Mais l'expression grecque qui est en arrière, c'est « hoi par autou », ça renvoie bien à la paternité, à la parenté plutôt. Littéralement, ça veut dire « ceux de chez lui ». Et le contexte l'indique assez bien d'ailleurs. On voit qu'il y a une opposition entre cette parenté et ceux qui suivent Jésus. Alors, on ne peut pas parler de ceux qui les suivaient, là, des disciples. Non, 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 c'est la famille. Alors, c'est bel et bien la famille de Jésus qui s'oppose à lui. Je vous avais annoncé une deuxième histoire. Alors, si on voit un peu plus loin dans l'Évangile de Marc, après cette controverse avec les pharisiens et les scribes, je vais vous lire une deuxième histoire sur la famille de Jésus présentée dans l'Évangile de Marc. Ça va être au chapitre 6, les versets 1 à 6. Jésus partit de là. Il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « D'où cela lui vient-il? » Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que même des miracles se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici chez nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne pouvait faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas. Dans le texte qu'on vient d'entendre, Jésus semble citer un dicton populaire qui est connu des gens qui l'entourent. D'ailleurs, l'expression est même restée dans notre langage en français. On le dit ça, « Nul est prophète en son pays ». Ça exprime la difficulté de réussir dans un terrain connu. Mais si on a retenu ce proverbe-là, on semble avoir oublié la deuxième partie de la phrase qui souligne que Jésus n'est pas prophète, bon, on l'a dit, dans son pays, mais aussi dans sa parenté et dans sa maison. Les difficultés de relation entre Jésus et sa famille apparaissent, entre autres, dans d'autres évangiles. On a vu deux textes en Marc, mais on aurait pu en trouver deux autres dans Matthieu, deux autres en Luc et un dans Jean. Cette attestation multiple montre que le climat est tendu entre Jésus et sa famille et ça semble bien avoir un enracinement historique. C'est probablement ça qui s'est passé, puisque tous les évangiles en parlent. Un autre élément peut-être vous a surpris lors de la dernière lecture, parce qu'elle va un peu contre la croyance de la virginité perpétuelle de Marie, comme l'enseignent les églises catholiques et orthodoxes. Qui sont les frères et les sœurs de Jésus dont parle le texte qu'on vient d'entendre? Et on en a même nommé les prénoms des frères. Qu'est-ce que vous en pensez? On y revient après un peu de musique. Vous êtes avec Sébastien Daune à l'écoute des récits insolites de la Bible. Aujourd'hui, on parle de la famille de Jésus et on vient de lire un texte qui parle spécifiquement des frères et sœurs de Jésus. Les noms des frères étaient même détaillés. On avait Jacques, José, Jude, Simon. On a parlé aussi des sœurs. En avez-vous déjà entendu parler de ça? On a dit que c'était dans tous les évangiles en parlait, deux fois chez Matthieu, deux fois chez Luc, deux fois chez Marc et une fois chez Jean. Vous, est-ce que vous en avez entendu parler de ces frères et sœurs de Jésus? C'est rare qu'on en parle, mais ça arrive quelquefois. Personnellement, je me rappelle d'une discussion avec ma propre mère qui revenait tout étonnée et bouleversée de l'Église où elle avait entendu ce texte et se demandait « C'est qui ça, ces frères et sœurs de Jésus? » Voici ce que je lui ai répondu. D'une part, les traditions protestantes, la plupart d'entre elles, vont considérer que Jésus avait tout simplement des frères et des sœurs nés de la même mère, Marie, et du même père, Joseph, après la naissance de Jésus. La tradition orthodoxe affirme qu'il s'agit de demi-frères, c'est-à-dire d'enfants d'un mariage précédent de Joseph. Les catholiques, eux, vont préférer essayer de parler de cousins de Jésus. Qui dit vrai dans tout ça? Honnêtement, je vous avoue que les hypothèses orthodoxes et catholiques sont difficiles à tenir pour un bibliste aujourd'hui. Il n'y a rien dans la Bible qui indiquerait que Joseph aurait eu des enfants avec une autre femme d'un autre mariage. Donc tout ça, ça vient de plus tard, c'est pas dans la Bible. Puis, pour le mot « cousin » que les catholiques essayent de mettre de l'avant, c'est dur à tenir ça aussi, parce qu'il y a un mot en grec, c'est « anepsios », spécifique pour dire « cousin ». Puis on le retrouve dans le Nouveau Testament. Paul va parler d'un des frères de Jésus, Jacques, le frère du Seigneur. Et dans Galates 1, verset 19, il va utiliser le mot « adelphos », le mot « frère », spécifique pour « frère ». Il aurait pu utiliser le mot « anepsios » pour « cousin » parce qu'il l'utilise ailleurs. Dans la lettre aux Colossiens, il va se servir de ce mot « cousin-là », mais il ne l'utilise pas pour Jacques, le frère de Jésus. Bon, c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup d'emplois métaphoriques du mot « frère » dans la Bible. Alors, par exemple, on est tous frères du même père. Mais le contexte dans lequel on voit ces mots apparaître nous permet de savoir qu'il s'agit de frères et sœurs d'une famille. C'est pas une métaphore ici, là. C'est les frères et les sœurs de Jésus qui sont à côté de la synagogue puis qui veulent qu'ils reviennent chez lui. Alors, bon, c'est sûr, on réglera pas la question aujourd'hui. C'est assez controversé. Ça dépasse le cadre de nos réflexions. Mais si on regarde attentivement les mentions qui sont faites des frères et des sœurs de Jésus, on peut essayer de comprendre quelque chose. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant qui s'en vient dans l'évolution de la pensée de la famille de Jésus. Juste dire qu'en plus des quatre évangiles, il y a aussi d'autres livres du Nouveau Testament qui parlent de ces frères et sœurs de Jésus. Pour ceux qui voudraient essayer de les cacher, c'est difficile parce qu'en plus des quatre évangiles, on a les Actes des apôtres, où ils vont parler de Marie, la mère de Jésus, et des frères de Jésus qui sont ensemble en train de prier. Ça, c'est Actes chapitre 1, verset 14. On a aussi Paul qui va parler de Jacques, le frère du Seigneur. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Et on retrouve comme ça, presque dans tous les livres du Nouveau Testament, la question des frères et sœurs de Jésus. Même en dehors du Nouveau Testament, j'allais oublier ça, il y a Jacques, le frère du Seigneur, qui nous est... on nous en parle dans les écrits de l'historien Flavius Joseph, qui est un historien juif qui écrivait pour les Romains. Alors lui, il va même parler de Jacques comme frère de Jésus. Mais au-delà de la question de savoir c'est qui ça, ses frères et des sœurs, puis savoir s'ils sont vraiment des frères et sœurs de sang, et ultimement de savoir si Marie est restée vierge ou pas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment a évolué la famille dans tout ça. On a vu par nos textes aujourd'hui qu'ils étaient vraiment contre Jésus, mais il va y avoir une espèce de conversion. Parce que dans les extraits des Actes des apôtres et dans les lettres de Paul, et même chez Flavius Joseph, on voit que les frères de Jésus agissent d'une manière très différente. Là, on est après la mort et la résurrection de Jésus, et là, ils semblent être du côté de Jésus, et même de prendre une place dans la communauté chrétienne qui est en train de naître. Et si les évangiles parlent de leur pression pour faire taire Jésus, bien, ces textes-là vont nous apprendre qu'ils sont au cœur des premières communautés chrétiennes. Jacques était même le responsable de la communauté à Jérusalem. On peut donc penser qu'il y a eu une espèce de retournement, une conversion de la famille de Jésus. Après la première génération de chrétiens, on ne retrouve plus les traces de cette famille de Jésus. La dernière mention de la famille, c'est à la mort de Jacques, il y aurait eu un autre membre de la famille qui aurait pris sa place comme responsable de la communauté chrétienne à Jérusalem. Son nom, c'était Siméon, fils de Clopas, et on dit que c'était le cousin du Seigneur. Alors, vous voyez le mot « cousin » qui est employé ici. Bon, si on revient au récit de l'évangile de Marc qu'on a lu précédemment, qu'en est-il réellement de l'attitude de la famille de Jésus? Comment expliquer ces textes qui sont durs à l'égard de la famille de Jésus? Bien, peut-être qu'une hypothèse, c'est qu'à l'époque de la rédaction des évangiles, les chefs de l'Église primitive, qui est en train de se constituer, voulaient mettre un terme à l'importance accordée à cette famille dans les communautés. Les véritables héritiers de Jésus, c'est les disciples, c'est ses disciples, c'est pas ses frères ou sœurs de sang. C'est bien ce qu'on a lu dans l'évangile de Marc tout à l'heure. « Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alors donc, la dynastie familiale se trouve à l'opposé du lien de fraternité qui est proposé dans l'Évangile. Alors bon, ça reste une hypothèse, mais elle vaut quand même quelque chose, je le crois. Notons au passage que tous les versets bibliques qui portent sur la famille de Jésus n'ont rien à voir avec les idées proposées par Dan Brown dans son fameux Code da Vinci. Il n'y a aucun indice biblique qui permet de croire que Jésus aurait eu une relation amoureuse et une descendance avec Marie-Madeleine. Ça, c'est un autre sujet complètement. Quelques questions pour aujourd'hui à partir de ça. Tout parcours normal de croissance vers une vie adulte, ça exige une séparation du noyau familial. Pour qu'un enfant devienne adulte autonome, il doit transformer sa relation avec ses parents. C'est normal. Lorsqu'il est jeune, sa relation est marquée par une forme de dépendance. Puis à l'âge adulte, au contraire, il faut que ça devienne quelque chose qui est beaucoup plus mutuel. Il y a un changement. Puis pour opérer ce changement-là et devenir un adulte responsable autonome, souvent un enfant doit lutter contre une image qui est parfois infantilisante ou qui est projetée sur lui par ses parents. Inconsciemment, il essaie de le garder dans une certaine forme de contrôle, de dépendance dans lequel ils sont habitués. Et la situation de l'adolescent devient un petit peu paradoxale parce que, d'une part, il a encore besoin d'un soutien matériel, financier, social, affectif de sa famille, mais en même temps, il veut de plus en plus de liberté et il veut devenir adulte. Il y a un nouveau rapport qui doit s'établir avec ses parents. Il y a une distance qui doit être nécessaire, qui doit se trouver, mais ce n'est pas évident. Le récit qu'on vient de lire nous montre qu'il faut parfois aller contre le désir de contrôle de parents pour construire son propre chemin. Imaginez ce qui serait arrivé si Jésus avait écouté sa famille. Il serait retourné chez lui, il se serait tué, il aurait arrêté de parler, il aurait arrêté de guérir. Tout ça pour rester dans l'image que ses parents avaient de lui. Il a décidé de sortir de cette image-là qu'on se faisait de lui. Lui qui était un charpentier, un gars du coin, il n'est pas censé opérer des guérisons, parler du royaume de Dieu. Mais Jésus a secoué tout ça, cette image encarcanée, pour devenir celui qu'il se sentait appelé à être. Puis je retiens, moi, personnellement, de ce récit-là, qu'il faut oser vivre librement, penser et agir en dehors des conventions pour se réaliser et devenir pleinement soi-même. Puis c'est en faisant cela qu'on pourra être utile aux autres. Cette fin d'émission, je vous rappelle rapidement que ces réflexions se retrouvent dans « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez questions, commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. L'adresse, c'est auditoire@radiovm.com. Entre autres, peut-être que vous voulez me parler sur ce que vous pensez, vous, de la relation entre Jésus et sa famille. La prochaine fois, on parle de paraboles. Dans un texte, Jésus semble pas vouloir que son auditoire comprenne sa parabole. Pourquoi est-ce que Jésus voudrait pas qu'on comprenne sa parabole? Qu'en est-il vraiment? Merci à Alain Primo à la technique et à Marie Laferrière aux lectures bibliques. C'était Sébastien Daune, bibliste. À la prochaine.